Bonjour à vous tous. Marie Jomoisset, de la Ligue des droits de l'homme, section Villefranche de Casseville, pour votre dernière émission Urgence de la saison. Pour cette dernière, l'équipe d'urgence a choisi de ne pas retenir un thème particulier, mais de réaliser une synthèse sur les différents sujets abordés au cours de ces derniers mois. Vous pourrez écouter quelques morceaux choisis des différents micro-trottoirs réalisés lors du marché du jeudi à Villefranche-de-Rouergue, en particulier sur les thèmes de la démocratie, la vidéosurveillance et les divers fichages, le vivre ensemble, l'égalité, la citoyenneté, la justice. Ensuite, vous entendrez Jean-Pierre Dubois, président national de la Ligue des droits de l'homme. Il expliquait le sens et les objectifs du pacte pour les droits et la citoyenneté lors d'une conférence qu'il a donnée à Villefranche-de-Rouergue le 15 avril dernier à l'amphithéâtre du lycée Borgard. Par contre, ce qui ne changera pas, c'est le billet d'humeur de Dominique Ladé que vous pourrez écouter en fin d'émission. Pour commencer, un peu de musique, Mélisse Mel avec sa chanson « Aux armes ».
C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé d'un pantin au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sang élevé, entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes nos sarcasmes. Aux armes, aux armes. Etc. Que veut cette horde de militaires, de traîtres et de rois conjurés, quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics, soldats, mercenaires, alors qu'on est tous étrangers aux armes, aux armes. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie et la fraternité se meurt.
Pour vous, qu'est-ce que la démocratie ?
C'est la liberté de s'exprimer. C'est la garantie républicaine, c'est la garantie à chaque citoyen de pouvoir s'exprimer en toute quiétude et tranquillité.
C'est un mot abstrait.
Il n'y a plus de démocratie.
Les Grecs pratiquaient la démocratie. En réalité, n'avaient droit à l'ouvrir sur l'agora,
que les riches, les hommes, les femmes et les esclaves, non.
Dans une démocratie, les gouvernements doivent tenir compte de la vie des citoyens.
La démocratie, c'est le pouvoir partagé par tous.
Un espace qui nous permet de pouvoir penser librement. Je pense que c'est le meilleur système dans lequel on peut évoluer, enfin, dans lequel l'homme peut évoluer.
Est-ce que la démocratie se limite aux élections ?
Non, non, la démocratie, elle est présente tous les jours. Elle n'est pas que politique. Je pense qu'elle est dans nos droits d'humain, simplement, quoi. C'est respecte ton prochain et donne la chance à peu près à tout le monde.
On a un exemple concret en Grèce aujourd'hui. C'est pas les élus seuls qui peuvent résoudre les problèmes. Il faut que le peuple participe justement à ces... à sa destinée.
Je ne suis même pas représentée dans ces élections. Que voulez-vous que je fasse ?
C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre au quotidien.
La démocratie, comme j'ai dit, c'est un style de vie. C'est l'idée de l'échange.
C'est de la vie de tous les jours, normalement, la démocratie.
Dans notre société, les individus sont de plus en plus sous surveillance technologique. Qu'en pensez-vous ?
C'est contre la liberté.
Ça nuit de façon grave à la liberté individuelle. Ces technologies, elles sont présentes dans les villes sous forme de caméras, mais elles sont aussi présentes sous forme de puces dans les habits, dans les téléphones portables.
On est surveillé, on se sent surveillé constamment.
Les cartes bancaires, le moindre fait mouvement que vous faites, ben vous êtes surveillé.
Même avec les satellites, on a l'impression d'être surveillé, même chez soi, à l'intérieur de notre maison.
À travers déjà tout ce qui concerne Internet, tout ce qu'on peut fréquenter comme site.
Qu'on aille retirer de l'argent au guichet, qu'on soit employé dans une administration ou autre.
Entre les radars sur les routes et les radars dans les rues et les lycées.
On est fiché partout, on est répertorié. Et je crois qu'on a beau vouloir se défendre de rentrer dans ce système-là, quoi qu'on veuille, on est fiché.
Quels sont les risques d'une utilisation abusive de ces nouvelles technologies ?
Que effectivement, ça soit utilisé à mauvais escient.
Il y a plein d'exemples. Quelqu'un qui n'a rien fait, on peut l'arrêter parce qu'il est soupçonné, tout ça. Simplement, il est fiché.
Et qu'on tombe dans le privé, que les gens se vendent des fichiers et les utilisent à la fois pour des raisons commerciales, mais aussi dans le public pour des raisons policières.
On a vu ce qu'ont pu donner les fichiers sur les Juifs en 1940. Bon, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses.
Quand on voit qu'il y a des détournements de cartes d'identité et tout ça, ça fait peur, quoi.
Les nouvelles cartes d'identité, il y a des micro-cristaux qui centralisent des informations sur nous.
Là aussi, c'est une entrave à la liberté totale.
L'école contribue-t-elle à la compréhension entre les personnes et la transmission des valeurs communes ?
L'école est très ambiguë.
Il manque, disons, le matin en arrivant à l'école, la petite ligne de morale que nous, on avait à une certaine époque.
Elle est sur le collectif, elle n'est pas sur l'individu. Et ça, c'est quand même fort dommage dans la mesure où il y a tellement de laissés pour compte à l'arrivée.
Et est-ce que l'école se comporte toujours de telle manière à ce qu'elle transmette justement les bonnes valeurs, les bonnes décisions ?
L'école doit, et c'est vraiment absolument l'un des devoirs de l'école, je pense, que de défendre ce type de valeurs. L'école fait ce qu'elle peut avec le peu de moyens qu'on les donne. L'école, qui plus est, se retrouve avec des programmes de plus en plus orientés. On n'étudie plus l'histoire, on étudie les cultures religieuses. C'est plus vraiment de l'éducation civique aujourd'hui. On nous explique quand même un peu plus quels sont nos devoirs que nos droits. Le strict formatage par des instances supérieures, des cours à assurer, fait que je suis pas certain que le rôle soit pleinement assumé à ce niveau-là.
Il faudrait poser la question à des instits, à des profs. Moi, je suis pas certain que la mission imposée par les ministres depuis une trentaine d'années soit véritablement dans cette ligne-là. On applique des programmes. L'école, d'ailleurs, c'est quand même aussi une des premières institutions qui pratique la sélection. On a chaque année 150 000, 170 000 élèves qui sortent de l'éducation nationale sans aucun diplôme. Dans des pays où on parle de haute technologie, c'est inconcevable, quoi. Je suis pas sûr qu'elle réponde aujourd'hui à sa mission, quoi, mais...
C'est un élément fondamental du vivre ensemble.
L'école, c'est l'intelligence en cadeau, c'est l'instruction, c'est ce qu'on donne, c'est le cadeau de la République, c'est le cadeau laïque, c'est indispensable. L'école, c'est l'école et c'est sacré.
Cumul des mandats, député pendant 20 ans, maire pendant 30 ans, qu'en pensez-vous ?
Ben moi je dis que c'est toujours bien d'avoir un maire qui est député, ça apporte toujours quelque chose à la ville. Ouais. Moi ça me dérange pas.
Quand on a 3 mandats, ça fait déjà beaucoup.
À mon avis, ils ont difficile de se mettre à la place de tout le monde.
Puisque le but quand on est élu, c'est d'être proche des citoyens.
Parce que je ne connais pas qu'il soit élu, qui n'est pas un bon salaire.
Et avec plus de 3 mandats, je crois qu'on s'éloigne des citoyens.
Je vois pas les gens qui peuvent être à Paris et dans les campagnes ou dans les mairies et s'occuper des besoins des gens, quoi. Enfin, c'est pas plausible, quoi. Enfin.
Mais c'est difficile parce que de toute façon,
toutes les personnes pour qui on vote, de toute façon, c'est des gens en principe qui sont bien installés dans la vie, qui ont des bons salaires, comparé aux gens qui galèrent, qui n'ont pas de travail ou qui ont des petits salaires.
Je suis contre le cumul des mandats.
Je suis contre le cumul des mandats.
Le cumul des mandats devrait être interdit, c'est clair.
Et les politiciens professionnels.
Totalement.
Alors après, bon, y en a qui ont peut-être aussi besoin d'argent, il y en a peut-être qui ont un goût du pouvoir exagéré, donc ils n'en ont jamais assez.
C'est pas normal tout ça. Non, non.
Non, bien sûr que non. Un voire deux mandats, grand maximum, grand maximum.
C'est trop. Il faut savoir changer et qu'il y ait des jeunes en politique et surtout des femmes.
La réorganisation de la justice voit la suppression des tribunaux de proximité. Votre opinion ?
C'est une très mauvaise chose.
Une grosse erreur.
Parce que ici, il faut cavaler à Montpellier en habitant Villefranche-de-Rouergue pour un problème de justice. Il n'y a pas grand monde qui ira, je pense. Voilà, quoi. C'est tout. Donc ça devrait rester là où c'est. Voilà.
Puisqu'il faut avoir les moyens, mais il faut avoir les moyens pour être, pour avoir recours à la justice.
Ça permet de rendre la justice plus injuste, puisque cela permet de faire traîner les affaires en longueur, en ayant, dans certains cas, une bonne raison pour les faire traîner. Voir Tibéri, qui n'est toujours pas jugé, ce qui lui permet d'être toujours maire alors qu'il est normalement invalidé et inéligible. Et ensuite, cela permet de faire traîner et d'engorger. Voilà.
Bah, c'est très très grave, parce que bon, d'autant plus, bon, ça va mettre encore plus longtemps. Alors déjà qu'ils n'arrivent pas à traiter les dossiers.
Je trouve que ça fait partie de ce qui se passe pour tous les services publics, où on éloigne les services des préoccupations et des besoins des gens.
Ben, encore un service public qui s'en va.
Bah c'est dommage, quoi. C'est encore des services publics qui disparaissent et on sait ce que ça donne au niveau de la lenteur des traitements, du traitement de dossiers.
Les dossiers s'empilent.
Et c'est un véritable problème pour les individus et pour la collectivité.
On supprime tout.
Et bientôt, nous aurons quoi dans nos campagnes ? Rien.
Deux ans, c'est dit, nous sommes un peu piégés. Il y a des tas de facteurs qu'on retrouve dans d'autres pays européens, la crise sociale, les problèmes mondiaux dont j'ai déjà parlé, la montée de l'extrême droite et du populisme. Bon, mais il y a quand même un problème spécifique en France. Il y a d'abord la monarchie, voilà. Tout est concentré entre les mains d'un seul homme, ça n'aide pas. Mais il y a aussi le fait que, du coup, cette concentration des pouvoirs, elle a détruit toutes les structures démocratiques. Vraiment. Alors, elles ne sont pas détruites en droit, hein, bien sûr, ça existe toujours. Mais il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de Premier ministre. Il y a des ministres qu'on agite, qui montent et qui descendent en fonction de la faveur du monarque. Il n'y a plus de Parlement. Le Parlement est une chambre d'enregistrement. Je dis, même quand des sénateurs UMP veulent changer un tout petit bout d'une loi sur les retraites, on leur dit coucher, et ils se couchent. C'est fini, je veux dire. Vraiment, hein, c'est un problème quand même. Hein. Je veux dire, il n'y a pas un autre Parlement dans le monde qui fonctionne comme ça dans une démocratie. La justice... Les magistrats se battent. On a d'ailleurs cette chose incroyable que 90% des magistrats sont maintenant furieux contre le gouvernement. Alors que c'est quand même une profession qui est plutôt conservatrice dans l'ensemble. Il ne faut pas se raconter l'histoire. Mais c'est tout simplement parce que jamais la pression sur l'indépendance de la justice n'a été aussi forte. À tel point que la Cour européenne des droits de l'homme dit que les procureurs de la République ne sont pas des magistrats parce qu'ils ne sont pas indépendants du pouvoir politique. Pas en Biélorussie, en France. Hein. En France, les procureurs ne sont pas des magistrats au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Et quand vous avez un ministre des Finances qui est en même temps trésorier de l'UMP et qui est très 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 proche de la plus grosse fortune de France et que le scandale éclate, Le procureur à qui on confie l'affaire, c'est quelqu'un qui dit « Je suis un ami de Nicolas Sarkozy et je dîne avec lui tous les mois. » Mais vous croyez que c'est possible, ça, ailleurs? Même en Italie, c'est pas possible. Hein, et il a fallu 6 mois pour que l'affaire soit confiée à un autre procureur. Et pendant ce temps-là, il a réussi à bloquer toute instruction indépendante et à refuser un juge d'instruction indépendant. Et c'est un exemple parmi 10. Hein, achetez notre bouquin de l'an dernier, « La justice bafouée, l'état des droits ». Tiens, entre parenthèses, le prochain sort dans 15 jours, ça s'appellera « La République défigurée », je vous le recommande. Voilà, on va faire un peu de pub. Donc nous n'avons, ni sur le plan du gouvernement, ni sur le plan du Parlement, ni sur le plan du pouvoir judiciaire, des institutions vivantes. Nous avons des institutions qui sont vidées de leur chair par la concentration du pouvoir. Et ça, c'est quand même un problème terrible. Pourquoi ? Et parce qu'on a, en plus, à l'Élysée, quelqu'un qui est, je sais pas être désagréable, hyperactif. Voilà. Je suis pas médecin, mais il y a quelque chose derrière cette hyperactivité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les semaines, ou presque, on a une nouvelle annonce. Ça n'arrête pas, depuis 3 ans, 4 ans maintenant. Et donc, alors, on pourrait trouver ça drôle, parce qu'il y a un côté un petit peu presque, enfin, presque pathétique, quelque chose d'un petit peu agité là-dedans. Mais non, non, c'est sérieux, c'est sur le fond. On ouvre des tas de chantiers. Et c'est vrai pour les syndicats comme pour nous, les associations de défense des droits. On ouvre des chantiers, alors il y en a 10 à suivre en même temps. Et on n'y arrive pas, forcément. On discute sur un point, on discute sur un autre, et on se fait avoir sur le troisième. Et donc, il y a une espèce de saturation permanente. Et un des effets de cette espèce d'accumulation, de ce que nous appelons les contre-réformes, hein, celles qui font régresser, un des effets de cette saturation, bah, c'est que nous sommes toujours sur la défensive, nous sommes toujours sur la critique, nous avons toujours cette image de gens qui sont négatifs, jamais contents, toujours en train de râler. Et M. Sarkozy dit « Je réforme la société française, mais regardez, ils sont tous corporatistes, ils sont tous conservateurs, il n'y a que moi qui vais vers le 21e siècle, ils veulent tous rester englués dans le passé, c'est terrible !» Et donc nous nous sommes dit « Il faut sortir de ça, de ce piège qui fonctionne très très bien, et qui fait qu'entre parenthèses, du coup, on n'entend pas d'alternative. Quoi. On entend juste des gens qui protestent. Mais on n'entend pas l'alternative. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Il y a une très grande majorité de citoyens qui sont très mécontents de M. Sarkozy, tous les sondages le disent. Le problème, c'est que quand on leur demande s'ils ont confiance dans autre chose, ça ne marche pas non plus. Parce que tout le monde est dans cette polarisation non, 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 face à quelqu'un qui avance sur tous les fronts. Donc nous nous sommes dit, il faut sortir de ça. Ça veut dire quoi ? D'abord, il ne faut plus travailler seulement la petite semaine. Quoi. Chaque semaine, ça y est, il faut prendre un communiqué, faire une nouvelle manif, il y a une nouvelle contre-réforme qui arrive. On va prendre du temps. On va essayer de réfléchir à plus long terme. Deuxièmement, on ne va pas être seulement dans la critique. Parce que nous avons un peu d'expérience, à partir de ce que nous faisons tous les jours, sur ce qu'on pourrait faire d'autre. On pourrait faire autrement avec les prisons, faire autrement avec la police, assurer l'indépendance de la justice, contrôler l'usage des fichiers ou des caméras de vidéosurveillance au lieu de les laisser publier comme ça. On pourrait redonner de la démocratie au lieu de tout concentrer au niveau des pouvoirs élyséens. On pourrait protéger les salariés, construire une sécurité sociale professionnelle au lieu de les laisser dans la précarité. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et donc, nous sommes dit, essayons d'assortir nos critiques de propositions alternatives. Pas d'un programme, hein. Ça, c'est les partis politiques et c'est normal qu'ils fassent ça. Mais des propositions alternatives. On a des idées, on va essayer de parler concret pour que les gens se disent, tiens, peut-être qu'on pourrait essayer autre chose. Concrètement, pas seulement des grands mots, concrètement. Et puis au bout d'un moment, nous nous sommes dit, ça c'était notre campagne Urgence pour les droits, nous nous sommes dit on ne va pas tout faire tout seul. Nous ne sommes pas un mouvement puissant, capable de changer la société française à nous tout seuls. Donc nous avons la chance de travailler avec pas mal de gens. Et nous avons essayé de contacter au printemps dernier nos principaux partenaires associatifs et syndicaux. On a passé 3 mois à discuter avec eux. Et le résultat, c'est ce pacte pour les droits et la citoyenneté. Quelle est l'idée du pacte ? Rassurez-vous, je vais m'arrêter, je dis que j'étais bavard, mais on arrive au bout, on va pouvoir discuter un peu. L'idée de ce pacte, c'est d'interpeller les politiques et les citoyens. Réagissez, pas seulement en nous disant oh, « c'est bien, les citoyens, bravo ». Non, non, dites-nous si vous êtes pour ou contre telle ou telle proposition. Et après, nous en rendons compte. Nous en rendrons compte aux citoyens pour que les citoyens aient des éléments de choix. Nous n'allons pas leur dire « votez pour X ou pour Y ». Nous n'allons pas construire un programme et présenter des candidats, mais nous allons dire, voilà, sur tel point, par exemple sur les contrôles d'identité de la police, sur les contrôles aux faciès, sur les droits des étrangers, sur la lutte contre le racisme, sur les droits sociaux, la précarité, le logement, l'éducation, les services publics, voilà des propositions concrètes, ceux-là ils ont dit ça, d'autres ont dit ça, faites-vous une idée. Et s'il vous plaît, ne jugez pas uniquement sur la qualité du brushing ou la blancheur des dents. Donc, nous faisons ça. Depuis plusieurs mois, nous avons démarré. Il y a un site qui s'appelle pactecitoyen.org, www.pactecitoyen.org, sur lequel vous trouverez toutes les propositions qui ont été faites, au-delà du pacte que vous avez là dans un 4 pages. Vous les trouvez par organisation et par thématique, parce qu'il y a 5 grandes thématiques sur la démocratie, les droits sociaux, les droits des étrangers, les libertés, la société de surveillance, etc. Les réponses des partis politiques, les réponses des élus, il y en a un certain nombre qui commencent à arriver, et tous les débats, toutes les réunions publiques, j'espère qu'il y aura un compte-rendu de celle de ce soir, parce qu'on essaye d'en faire un maximum, de telle façon qu'on voit peu à peu monter l'intérêt des citoyens pour cette chose. Et nous allons être présents le 1er mai, à la fois sur les questions de racisme le matin, parce que la montée de l'extrême droite nous préoccupe beaucoup, et aussi sur les droits sociaux avec les syndicats l'après-midi, et on va essayer de le faire un peu partout en France. Et on fera un 14 juillet des droits de la citoyenneté pour alerter un peu les médias là-dessus, parce qu'il faut absolument que nos concitoyens puissent se dire que la citoyenneté, on peut s'en saisir, et que quand on s'en saisit, ça marche. Ça marche à Tunis, ça marche au Caire, mais ça peut aussi marcher ici. Et il y a un vrai réveil citoyen que nous essayons d'impulser, il ne faut pas exagérer nos forces, mais en fait c'est très simple, le mouvement se trouve en marchant. Nous faisons le pari que si nous sommes capables de faire cela, aucun candidat, ni à la présidence de la République, ni aux législatives, ne peut négliger une démarche qui est partagée par 50 organisations, dont les plus grandes organisations syndicales de ce pays et des grandes associations. Parce que c'est embêtant. Parce que ça fait mauvais genre, parce que ça souligne le fait qu'on ne fait pas attention à la société. Et donc nous avons une occasion de peser. On le voit bien d'ailleurs, les mesures démagogiques vont fleurir probablement. Et donc c'est le moment de discuter sur le fond. C'est le moment de peser pour que cette fois-ci, parce que je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de sessions de rattrapage, pour que cette fois-ci, les gens ne se fassent plus avoir. Moi j'en ai assez des petites formules creuses. Genre travailler plus pour gagner plus, mais soyons honnêtes, la fracture sociale, super, évidemment. Qui est pour la fracture sociale? Personne. Donc le gars qui dénonce la fracture sociale, c'est génial. Mais soyons honnêtes, la France unie, qui est pour une France divisée? Vous voyez, le président de tous les Français, etc. Ces formules de com' qui sont creuses, qui font que non seulement vous choisissez le roi au lieu de choisir votre avenir, mais en plus vous choisissez sur un slogan qui irait aussi bien pour vendre une lessive. Et donc tout le monde se dit « Ah, oh, c'est admirable, il y a une belle photo derrière, ça dure 3 mois, ça s'appelle l'état de grâce, et puis après, pendant 4 ans et demi, les gens disent « C'est un peu l'état de disgrâce, parce que finalement, c'était juste des mots, et il n'y a rien derrière. » Il faut que nous arrivions à mettre autre chose que des mots derrière ces enjeux, il faut que nous arrivions à mettre du concret, parce que si la politique ne change pas la vie des gens, alors les gens se détourneront définitivement de la politique. Donc j'espère seulement que cette proposition vous donnera envie d'investir un peu, de militer, et que donc nous pourrons ensemble faire la preuve que c'est encore possible. Hein. Je ne veux pas vous sortir les slogans d'Obama, d'autant plus que bon, là aussi, hein, entre ce qui se dit et ce qui se fait, ce n'est pas toujours facile, mais enfin quand même, je pense que nous pouvons beaucoup de choses ensemble, ensemble, à condition de ne pas rester chacun dans son coin et de ne pas se résigner à la défaite. Mais franchement, quand on voit ce qu'ont gagné nos amis en Tunisie et en Égypte, on n'a plus le droit d'être pessimiste. Donc bon courage à tous. Voilà. Alors sur le contenu du pacte, c'est vrai que j'ai pas beaucoup développé parce que je pensais naïvement que vous l'aviez déjà entre les mains. Alors bon, on ne couvre pas tout parce que c'est gigantesque. Hein. Il y a deux grosses lacunes, hein, je vous le dis tout de suite, c'est la question des droits des femmes qui est transversale mais qui n'est pas posée spécifiquement, et la question écologique, voilà, du développement durable. Ces deux questions-là, elles ne sont pas dedans, parce qu'à un moment donné, on a fait des choix sur des urgences par rapport à des contre-réformes de Sarkozy. Donc c'est un peu de là qu'on était parti. Donc en gros, vous avez 5 pôles autour desquels il y a des propositions qui s'agrègent. Il y a la question de la démocratie. Et ça, ça recoupe des choses. Alors, je ne peux pas vous donner toutes les propositions concrètes, parce qu'après, elles sont sur le site. Hein. Vous allez voir sur le site Pacte Citoyen, vous allez en trouver des tonnes. Ben, il y a évidemment le droit de vote pour les résidents étrangers. Mais par exemple, il y a l'interdiction des cumuls de mandats. Il y a quelque chose à quoi nous tenons beaucoup. Et je précise qu'on est quand même la seule démocratie du monde qui tolère ça. Hein. Partout ailleurs, soit c'est interdit par la Constitution, soit il n'y a même pas besoin de l'interdire. Allez voir si... On peut être ministre et maire d'une grande ville dans n'importe quelle autre démocratie du monde. Ça n'existe pas. Allez voir si on peut être parlementaire et maire de Francfort, de Rome, de Berlin, de Madrid, de Londres. Ça n'existe pas. Et c'est très très important ça, parce que quand vous avez les grands féodaux qui contrôlent tout, puis qu'on dit après c'est curieux, il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup de diversité culturelle, comme on dit poliment, pour dire qu'il n'y a pas de bronzés, hein, Voilà. Puis il n'y a pas beaucoup de jeunes non plus. Pourquoi c'est comme ça? Ben, c'est très simple. Comme on dit en Afrique, à l'ombre du baobab, il ne pousse rien. Voilà. Il y a des très très gros baobabs. Il faut replanter avec des jeunes pousses. Voilà. C'est vraiment nécessaire pour le cumul des mandats. Mais c'est aussi, par exemple, avoir un vrai juge constitutionnel. Parce que si vous voulez, moi je trouve ça très très bien qu'on puisse contester la constitutionnalité des lois après coup, hein, même déjà en vigueur. C'est un progrès réel. Sur la garde à vue, ça a permis de déglinguer une bonne partie du système. Donc c'est déjà un progrès. Sauf que, si vous voulez, quand je vois comment est composé le Conseil constitutionnel, le jour où l'affaire de Chirac là va arriver, ça va être très très drôle. Parce que d'abord, Chirac en est membre. Je pense qu'il siégera peut-être pas, avec un peu de chance. Il y a Giscard aussi. Alors si Giscard siège, c'est pas bon pour Chirac, vu comme il s'aime, hein, depuis si longtemps. Il y a Jean-Louis Debré qui préside le Conseil constitutionnel, qui est le fils politique de Jacques Chirac, et qui a été son ministre de l'Intérieur. Et je pourrais continuer longtemps comme ça. Appelez ça une cour constitutionnelle, je vous assure que discuter avec des Allemands, des Américains, des Espagnols, des Italiens, ils sont morts de honte pour nous. Hein. Morts de honte pour nous. Les juges constitutionnels en Allemagne, par exemple, ils sont désignés par les députés à la majorité des deux tiers. Ce qui fait qu'aucun parti ne peut les désigner tout seul. Donc on est obligé de s'entendre sur des gens relativement impartiaux. Voilà, on demande ça depuis très longtemps, nous, pour le Conseil constitutionnel et pour toutes les autorités indépendantes. Ça changerait. Alors que là, ben voilà... Le défenseur des droits, ben ça va être un vice-roi des droits de l'homme qui va être choisi par le roi. Certes, on nous dit « Ah, mais les commissions parlementaires peuvent s'y opposer depuis 2008 ». Oui, oui, il faut une majorité de 3/5 pour dire non à Sarkozy, 3/5 de la commission de l'Assemblée nationale, 3/5 de la commission du Sénat. Donc en gros, il faut que 3/5 de l'UMP soit contre Sarkozy pour qu'on ait une chance que ça passe pas, ces candidats. Marquez, ils progressent, hein, 3/5 de l'UMP contre Sarkozy, on va bientôt y arriver. Enfin, c'est quand même pas... des conditions démocratiques satisfaisantes. Donc il faut, sur toute une série de points, sur l'indépendance de la justice, l'indépendance des procureurs, etc., enfin il y a toute une série de propositions concrètes. Bon, après il y a la société de surveillance, c'est-à-dire des fichiers partout, des caméras partout. Je disais tout à l'heure à la radio locale, il y en a une centaine là dans la salle. Bon, ben, dans cette salle, il y a 60 personnes, non j'exagère, pardon, il y a 40 personnes qui sont au STIC. Vous connaissez le STIC, système de traitement des infractions constatées. C'est un fichier de police qui recense non pas les gens qui sont déjà condamnés, hein, ça c'est le casier judiciaire, ça existe depuis très longtemps, les gens dont un policier a pensé que peut-être ils étaient mêlés à quelque chose. C'est pas plus que ça. Il y a actuellement 35 millions de personnes dans ce pays qui sont fichées au STIC. Alors même, ça fait plus que 40%, hein, voilà. Donc voilà, vous voyez, hein, 35 millions de personnes. Pourquoi ? Eh ben, il y a 9 millions de personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction. Soupçonnées, hein. La présomption de culpabilité, vous savez, ça marche bien. C'est le contraire de la déclaration des droits de l'homme, ça marche bien. Pas condamnées, soupçonnées. Et ces gens-là, normalement, évidemment, on devrait les rayer du fichier si la police, finalement, les met hors de cause après quelques jours d'enquête, ou bien s'il y a une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, ou bien si elles sont jugées mais acquittées par le tribunal. Seulement, on ne le fait pas. Pourquoi ? Pas parce que les gens sont méchants, mais parce que même les procureurs sont débordés et qu'il n'y a pas assez de moyens pour gérer les fichiers. Moralité, la CNIL a fait un sondage dans ce fichier et elle a trouvé 83% de données erronées. 83%. Donc, il y a maintenant 35 millions de personnes qui sont fichées sans qu'elles le sachent, d'ailleurs, parce que là, il y a plein de gens dans la salle qui ne le savent pas, mais qui y sont. On l'apprend quand ? Eh bien, quand on est mêlé à une affaire judiciaire, ou d'un seul coup, on dit « Ah, mais vous êtes connu des services de police. » Comment ça, moi, je suis connu des services de police ? Ben oui, vous êtes fiché au STIC. Alors, vous me direz « Ah, ben oui, mais si on est fiché au STIC, c'est parce qu'on a été soupçonné par la police. » Ah non, pas du tout. Il n'y a que 9 millions de personnes qui ont été soupçonnées par la police. Et les 26 autres millions, qui sait ? Eh bien, ce sont des gens qui ont été témoins dans une enquête de police. Les témoins sont dans le même fichier que les personnes soupçonnées. C'est amusant comme idée. Mais il y a plus fort encore. Les victimes sont dans le même fichier. Quand vous portez plainte parce qu'on vous a volé une mobilette, vous êtes au STIC. Et du coup, après, le président du tribunal correctionnel dit, et cette personne, ah oui, elle est fichée au STIC. Hein. C'est une vieille histoire juive, je ne sais pas si vous la connaissez. Deux vieillards discutent ensemble et il y en a un qui dit à l'autre, dis donc, c'est quoi cette histoire ? Ton fils a volé une mobilette ? Ou bien on lui aurait volé une mobilette ? C'est pas clair. Vous voyez, c'est ça, hein, finalement. Vous êtes quoi ? Vous êtes mêlé à un vol de mobilette. On ne sait pas trop comment, mais vous y êtes mêlé. Comment c'est possible qu'on arrive à ficher 35 millions de personnes dans ce pays sur des bases aussi fragiles et avec des résultats aussi faux et sans aucun contrôle sérieux ? Oh, j'exagère, il y a des contrôles possibles. Hein. Vous pouvez passer par un parlementaire, saisir la CNIL, et la CNIL, au bout d'un moment, elle fait rectifier les choses. Par exemple, il y a quelqu'un qui a réussi à sortir du fichier DRG. C'était en 2008, au moment où on contestait le fichier Edwige. Il y est arrivé, je lui ai tiré mon chapeau dans une émission radiophonique, parce que l'affaire avait commencé en 1999, il lui a juste fallu 9 ans de procédure. Donc si vous êtes patient, si vous avez l'argent pour payer les avocats, vous pouvez en sortir. Voilà. Ben, ça, c'est pas tolérable. Parce que le STIC, c'est qu'un fichier, il y en a 60, le fichier de police. Hein. Plus les interconnexions entre les fichiers fiscaux, de sécurité sociale, plus ce qu'on fait de bas élèves et la manière dont on essaye de le mêler avec les pouvoirs de police des maires, etc. Donc, à un moment donné, la Ligue des droits de l'homme fait une proposition très simple. Enfin, elle en fait même plusieurs. D'abord, qu'on ne puisse créer un fichier que par la loi, parce qu'actuellement, il suffit d'un arrêté du ministère de l'Intérieur. Je ne vous dis pas comme c'est discret et comme ce n'est pas discuté contradictoirement. Nous pensons que c'est des choses sérieuses, qu'il faut que ça soit débattu publiquement, contradictoirement, par la loi. Et surtout, nous voulons qu'il y ait une procédure judiciaire que nous appelons le référé vie privée et données personnelles, qui vous permet, en 15 jours, parce qu'un juge de référé, ça va vite, 15 jours, 3 semaines, d'obtenir communication de tout ce qui vous concerne dans un fichier. Et de faire rectifier tout ce qui est erroné. C'est la moindre des choses, quand même, qu'on sache qu'on raconte de nous et qu'on puisse faire rectifier ce qui est faux. C'est pas vraiment un programme révolutionnaire, non ? Tous les libéraux, c'est-à-dire des gens qui sont censés défendre des libertés, devraient être d'accord avec ça. Donc on va le demander. Et on va demander à tous les candidats aux élections s'ils le feront ou pas. Hein. Puis on sera là en 2013 pour voir si c'est fait ou pas. De la même façon sur la vidéosurveillance, je veux dire, vraiment, on est sur un truc totalement délirant. Vous savez qu'on la démonte ailleurs. Les Anglais sont en train de revenir sur toute une série de réseaux. La ville de Miami a démonté entièrement son réseau de vidéosurveillance. Il s'est géré par une municipalité quasiment d'extrême droite à Miami, sur le très sécuritaire. Donc il y a bien quand même de quoi raisonner un tout petit peu. Donc là aussi, nous demandons qu'il y ait un contrôle de proportionnalité et de résultat sur ces histoires-là. C'est très simple. Nous ne demandons pas la Lune. Nous demandons simplement qu'on travaille sérieusement sur les effets et sur l'utilité de ces choses. Ce dont nous voulons faire la preuve avec cette proposition, mais il y en a beaucoup d'autres, mais cette proposition, elle cherche à une chose très simple. Elle cherche à faire la preuve que ce système ne fonctionne que dans la fraude, dans le mensonge et dans l'opacité. Donc, à ce moment-là, on le détruit s'il ne peut pas fonctionner conformément aux libertés. Parce que dans un système démocratique, c'est la liberté qui est la règle. Et qu'on ne peut pas présumer la culpabilité des gens sur des choses fausses. Alors, des propositions, il y en a donc sur ces questions de société de surveillance. Ensuite, il y a les questions de justice, police, prison. Je ne vais pas vous faire un catalogue complet, mais je vous donne des exemples de contenus concrets pour qu'on voit si ça sert à quelque chose. L'indépendance des parquets. Tout de suite. Tout de suite. C'est-à-dire le fait que la carrière des magistrats du parquet ne soit plus liée au pouvoir politique. C'est simple, ça ne garantit pas le paradis, mais ça mettra fin à une série de pressions politiques monstrueuses qui font que les procès sur l'amiante, que les procès sur Madame Bettencourt, que les procès qui intéressent toute une série de gens puissants sont enterrés, que les sections économiques et financières du parquet ont été détruites, que toutes les affaires financières sont aujourd'hui bloquées, parce que ce sont les amis du pouvoir qui se protègent de cette façon. Donc ça, c'est un minimum de justice indépendante. Mais c'est pas seulement ça. La suppression des juridictions d'exception. Nous voulons la suppression de la justice dite antiterroriste. Hein. D'abord parce qu'une justice antiterroriste, c'est un scandale. Je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais c'est un scandale. La justice ne doit être ni pro-terroriste, ni antiterroriste. La justice doit dire le droit. Qu'est-ce que ça veut dire, une justice antiterroriste ? Une police antiterroriste, je comprends. La justice, elle est là pour dire le droit et pour punir les gens qui ont violé la loi. Point. Qu'est-ce que ça veut dire, antiterroriste ? C'est très curieux, ils ont confondu avec l'armée, je pense. Hein. Et puis surtout, aucun motif de sécurité ou d'ordre public ne justifie une justice d'exception. Une justice dans laquelle on déroge aux principes fondamentaux de droit de la défense. Cette justice antiterroriste, elle a commis des dizaines et des dizaines d'erreurs judiciaires. Elle a mis des gens en prison par centaines pendant des années, alors qu'ils étaient innocents. C'est un véritable scandale. C'est une juridiction d'exception, il faut la supprimer. Et c'est pas seulement ça, c'est les procédures d'exception. C'est l'abrogation des lois Merben qui ont tellement multiplié les procédures d'exception qu'aujourd'hui, il y a 40% seulement des affaires correctionnelles qui se jugent selon le droit commun. 60% des affaires se jugent selon le régime d'exception. C'est pas une question de technique, hein, parce que le droit commun, c'est l'égalité de traitement. Quand on déroge au droit commun, il n'y a plus d'égalité. Et c'est très concret, hein, sur les droits des justiciables, sur ce qui leur arrive en cours de procès, etc. Donc ça fait partie de ce qu'on demande. Bien entendu, la garantie de l'indépendance de l'instruction pénale. Si on confie l'instruction pénale des affaires au parquet, il faut qu'ils soient indépendants du gouvernement. Parce que quand même, il y a des limites. Hein. Détruire le juge d'instruction et confier ça à des larbins du gouvernement, c'est pas possible. Je dis larbins, c'est pas injurieux pour les procureurs. Hein. Beaucoup essayent de ne pas l'être, mais le statut, c'est ça. Hein. En matière de prison, il y a des règles pénitentiaires du Conseil de l'Europe qui ont été définies pour tous les pays membres du Conseil de l'Europe, qui garantissent des droits décents pour les détenus, qui interdisent la surpopulation, qui interdisent toute une série de traitements inhumains et dégradants. Nous sommes condamnés tous les ans par la Cour européenne des droits de l'homme. Les tribunaux administratifs français commencent à condamner l'État à des dommages et intérêts en raison des traitements inhumains et dégradants que subissent les détenus. L'application des règles pénitentiaires du Conseil de l'Europe, ce n'est pas un programme révolutionnaire. Ce sont les obligations internationales de la France. On pourrait peut-être donner un petit peu d'exemple. La police. Alors, je passe sur la manière dont on emploie la police aujourd'hui, c'est-à-dire l'armée d'occupation dans les quartiers pauvres, parce que c'est quand même ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Eric Raoult. En 2005, il a dit qu'il ne faudrait pas que ça ressemble à l'Irak. Je l'ai noté, celle-là, parce que quand M. Raoult dit ça, je dis, on voit où on en est. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des gens qui sont au milieu de la population et qui garantissent les droits des personnes, on a des gens qui viennent occuper un carrefour ou une cité pendant 3 heures et qui se retirent. Exactement comme s'ils faisaient une opération dans un pays adverse, avec les équipements qui vont avec, et donc une logique de guerre. Mais des choses beaucoup plus simples, je donne un seul exemple, les contrôles aux faciès. Même Éric Besson a reconnu qu'il y avait des contrôles aux faciès, si ça ne lui a pas échappé, ça n'a vraiment échappé à personne. Hein. On est d'accord. Non. Nous avons participé avec une fondation américaine à l'opération dont vous avez peut-être entendu parler, qui a observé discrètement, c'est des scientifiques qui l'ont fait, dans des conditions très sérieuses, pendant 6 mois, le comportement de la police dans les zones les plus fréquentées à Paris. La gare du Nord, le métro RER Les Halles, il y avait 6 endroits. 6 mois d'observation, le résultat écrasant. Si vous avez la peau noire, vous avez 5 fois plus de chances d'être contrôlé. Si vous êtes considéré comme maghrébin, d'après des critères discutables d'ailleurs, vous avez 14 fois plus de chances d'être contrôlé. Apparemment, c'est encore pire pour les maghrébins. Donc voilà, comment on fait ? Ben nous avons une proposition très simple, qui ne supprimera pas tous les contrôles aux faciès, parce que, bien entendu, ça supposerait beaucoup d'autres choses que le traitement de la police. Ça supposerait que la société bouge, et il faut le faire. Mais une chose très simple, nous proposons que tous les contrôles d'identité soient accompagnés de la délivrance d'une attestation à la personne contrôlée, signée par le policier qui la contrôle, avec, non pas son nom, parce qu'on peut craindre pour sa vie privée, mais un numéro matricule d'identification, la date, l'heure, le lieu, et le motif légal, parce que contrairement à ce qu'on croit, il faut un motif légal pour contrôler l'identité d'une personne. Vous voyez tout de suite les conséquences. Un, ça éviterait qu'il s'amuse à contrôler 10 fois le même gamin. Parce qu'il pourrait lui dire « Ah, j'ai tiré mon papier hein, !» Déjà. Bon. Deux, ça ferait un tout petit peu réfléchir sur les traces et sur les méthodes. Trois, ça donne aux policiers une meilleure image. Au lieu d'être le type qui fait de l'arbitraire, il a des comptes à rendre et il donne des garanties à la personne. 4, ça dit à la personne contrôlée qu'elle a des droits, qu'elle n'est pas juste comme ça quelqu'un dont on fait ce qu'on veut, mais qu'elle peut se défendre et qu'elle peut avoir des recours. Alors le ministère de l'Intérieur nous a dit « mais vous êtes fous, c'est impossible ». Donc on a fait venir, parce que la Fondation américaine avait plus de sous que nous, on a fait venir des policiers espagnols qui pratiquent ça depuis des mois, avec d'excellents résultats, y compris dans les quartiers durs, et on a fait venir un policier de Chicago, parce que figurez-vous qu'à Chicago on le fait depuis 5 ans. Et pour être franc, il y a des quartiers de Chicago qui n'ont vraiment rien à envier aux quartiers les plus difficiles français. Donc ça peut se faire. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Pourquoi on ne le fait pas ? Ben on ne le fait pas parce que ça changerait le comportement qu'on exigerait vis-à-vis d'un certain nombre de populations. Et il faut entrer là-dedans. Nous ne sommes pas pour la dénonciation de tous les policiers, pas du tout, mais il faut que ceux des policiers qui se conduisent de manière inadmissible soient de plus en plus mal à l'aise et soient de plus en plus contraints de se conduire autrement. C'est absolument indispensable. Il y a eu d'ailleurs à Toulouse, donc pas très très loin d'ici, une très intéressante expérience de formation des policiers à ce genre de méthode avec la Ligue des droits de l'homme, parce qu'il y a eu un contrôleur de la police qui a joué ce jeu. Et donc, il faut aller dans cette direction. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais sur les droits des étrangers, ah ben alors c'est assez simple, hein, nous sommes pour l'abrogation de toutes les lois xénophobes qui ont été prises depuis 2002, nous sommes pour la régularisation de tous les sans-papiers. Tous les sans-papiers. Pourquoi ? Pas parce que nous sommes des fous délirants, mais tout simplement parce qu'ils resteront. Et que donc la question qui est posée, c'est pas de savoir si on va les remettre, comment elle dit Mme Brunel, on les remet dans des bateaux, là, puis ils crèvent de soif, ou si on les met dans des charters, etc. La question c'est de savoir comment ces gens vont vivre au milieu de nous. Est-ce qu'ils vont continuer à vivre dans la peur, dans la surexploitation, c'est-à-dire qu'on entretient une sorte d'apartheid social, ici ? Ou est-ce qu'on vit à égalité de droits. Je rappelle quand même que quand le gouvernement Zapatero, au début, avait fait la régularisation de 800 000 sans-papiers en Espagne, non seulement il n'y a pas eu le mythique appel d'air dont on a parlé, je veux dire, quand il y a plus d'immigrants en Espagne, c'est pour des raisons qui sont totalement indépendantes de la régularisation, mais ça a équilibré les comptes de la sécurité sociale dans l'année qui a suivi. Ben oui, hein. Parce que les sans-papiers, ça arrange énormément de patrons quand même, hein. Il y a énormément de cotisations sociales qui ne rentrent pas. Et donc, c'est non seulement une mesure de justice, mais c'est une mesure extrêmement intelligente pour améliorer les comptes sociaux et pour améliorer toute une série de difficultés que nous rencontrons en termes de santé, en termes de suivi des personnes, etc. Nous sommes pour ça. Nous sommes également pour le respect de l'accueil inconditionnel sur le délit de solidarité. Et nous demanderons des comptes là-dessus à tous les candidats et à tous les élus. Vous savez, les gens qui accompagnent les étrangers... Alors, M. Besson nous a dit, mais il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de poursuite. On lui a mis sous le nez les cas de poursuite, mais il n'arrive pas à les voir. Il a un rapport avec la vérité qui est un peu difficile. Donc, nous avons les cas, on a fait la liste d'associations, et on va demander que la loi reconnaisse clairement l'accueil inconditionnel des personnes en situation irrégulière, de telle façon que la solidarité ne soit pas un délit. Et ça aussi, c'est extrêmement important, parce que ça renverse les choses. Ça dit aux citoyens, vous pouvez être solidaires avec ceux qui sont pourchassés. Non seulement vous ne risquez rien, mais vous faites votre devoir de citoyen. Ça change un peu le climat. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, sur les droits sociaux. Je ne veux pas être exhaustif non plus, mais bon... nous pensons que, par exemple, la question de la sécurité sociale professionnelle doit cesser de n'être qu'un mot. Il se trouve que les deux plus grandes confédérations syndicales, sous des appellations différentes, ont convergé vers cette idée-là. Sécurisation des parcours professionnels, sécurité sociale professionnelle, etc. Alors on le fait ou on le fait pas. Vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Hein. L'enjeu qu'il y a derrière, c'est que lorsque les emplois bougent, on sécurise des droits. En termes de revenus, en termes de formation, ça veut dire que quand les gens perdent leur emploi, ils sont pas dans la mouise totale par rapport au crédit de la maison, par rapport au reste de la vie, etc. Ça ne supprime pas tous les problèmes sociaux, mais ça change énormément les conséquences des délocalisations et les conséquences des déplacements d'emploi. Quand on nous dit qu'on est pour une régulation du capitalisme, je ne sais trop quoi, une moralisation du capitalisme, c'est des très belles formules, et bien ça, c'est un test. On le fait ou on le fait pas. Et on garantit à quelle hauteur la stabilité des droits des salariés quand les emplois bougent. Je vous assure que si on arrivait à un résultat concret là-dessus, il y a énormément de gens chez les salariés qui changeraient d'avis sur la politique. Hein, parce que ça changerait les conditions de vie de millions de personnes. De la même façon, nous pensons qu'il faut revenir sur toutes les mesures de destruction de l'éducation nationale. Par exemple, non seulement la suppression de postes, mais la suppression des RASED et toutes les politiques qui ont été détruites et qui visaient en priorité les quartiers en difficulté. Et c'est absolument décisif parce que, et c'est pas seulement sur l'éducation nationale, un des aspects les plus centraux de ce qui se passe dans les quartiers pauvres, c'est le désengagement de l'État et des institutions de solidarité. C'est-à-dire que les gens sont laissés face à eux-mêmes et à la police. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pratiquement plus que le maintien de l'ordre qui est vraiment géré. Et donc, reconstituer des conditions de vie décentes, et ça veut dire aussi les faire gérer par les habitants eux-mêmes, très souvent. Hein. Ça veut dire que, par exemple, sur le logement, au lieu de payer des vigiles et de payer des entreprises qui viennent fliquer les habitants, il faut mettre la gestion des logements sociaux entre les mains des habitants eux-mêmes. Et ça donne, là où on le fait, des résultats remarquables. Parce qu'assez curieusement, c'est la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les peuples des pays arabes, eh ben, ils veulent la démocratie eux aussi. Et les habitants de ces quartiers-là, ils ont envie de vivre dans des logements qui soient convenables, sans violence, etc. Donc c'est en remettant le contrôle de la vie des gens à ces gens eux-mêmes qu'on améliore la situation. Alors que là, aujourd'hui, on fait une gestion qui est quasiment postcoloniale, c'est-à-dire qu'il y a une gestion de paternalisme. C'est-à-dire on dit, voilà, ces gens-là ne sont pas capables de s'en occuper et on va arriver vers eux. Nous avons comme ça listé, je pourrais en faire beaucoup d'autres, mais c'est un trop long, énormément de propositions concrètes. Elles sont discutables, mais toutes changent quelque chose à la vie concrète des gens. Et sur toutes ces mesures, on doit apporter une réponse claire, pas on verra, ou etc. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, on peut nous dire on n'a pas l'argent, on peut discuter, etc. Mais il faut qu'on nous dise quelque chose de concret. Et nous publierons toutes les réponses.
Quel choix allons-nous faire ? La démocratie qu'on veut nous vendre est en panne. Les intérêts particuliers sont en train de finir de tuer le système capitaliste lui-même. Les partis politiques de droite ou de gauche, en Europe, cherchent essentiellement à montrer qu'ils veulent et savent gérer. Leur raison d'être est bien la quête et la prise du pouvoir pour faire triompher ce qu'ils défendent. En soi, non seulement ça me semble normal et honnête, puisqu'annoncé, mais aussi sain dans une démocratie. Seulement, pour cela, il faut accepter bien des compromis, abandonner bien des valeurs qui faisaient pourtant leur identité et leur projet. Il faut penser comme, adhérer au projet, se rallier à la majorité, quand ce n'est pas au président. Le débat est, de fait, limité. L'innovation, la recherche, la réflexion ouverte, tout cela est finalement très limité et même peu souhaitable. Ou pour être plus juste, peu souhaité. Alors, quelles alternatives avons-nous? Comme chaque matin sur la vieille Europe, la lumière viendrait-elle de l'Orient? Pour moi, c'est évident. La lumière vient aujourd'hui, comme hier, de l'Orient. D'abord, de ce que beaucoup appellent le printemps arabe, la révolution du jasmin. Ce ras-le-bol non seulement exprimé, mais aussi vécu dans le sang et la douleur. Début de ce que l'on espère être un processus démocratique. Long sans aucun doute et plein d'embûches. Rien n'est pour l'instant gagné, mais l'espoir est là. L'exemple est donné, les possibles réexistent. La lumière nous vient aussi du sud et de l'orient de l'Europe. La lumière nous vient aussi de los indignados, des indignés espagnols et des indignés grecs, qui se répondent aussi dans d'autres pays européens, dont la France. Une génération sacrifiée à qui il ne reste que peu d'alternatives. Une nouvelle génération no future, mais qui veut vivre et positiver cet handicap. Et qui pour l'instant choisit l'indignation digne, la violence non violente, le cri silencieux, l'anarchie construite et organisée, l'inactivité productrice, la pause réflexion permanente, l'ordre partagé, le brainstorming comme mode de réflexion encouragé. Le défi permanent d'inventer un nouveau monde, de nouvelles réponses, de débattre et d'avancer. Refuser de rester sur le bord de la route, abandonné par une société qui refuse de voir en sa jeunesse une force de vie, un investissement nécessaire et rentable, pour maintenant et pour demain. À Madrid, la lumière vient tout naturellement de la porte du soleil, pour peu qu'on veuille bien l'ouvrir, la Puerta del Sol. Ils inventent par exemple un service du respect, et non un service d'ordre. La parole redevient l'arme, l'outil qui construit du lien entre les êtres humains. L'explication, le dialogue, le raisonnement veulent remplacer la force brute de la répression. Remettre de la réflexion et du sens collectif avant l'action politique. Comment organiser la vie de la cité autrement? Dans la ville de Toile, de la Puerta del Sol, la vie est pensée, organisée. On y trouve une bibliothèque, un centre de soins. Toute la vie y est aménagée, collectivement réfléchie, discutée. La jeunesse volontaire, et d'autres moins jeunes d'ailleurs, tentent d'imaginer et d'inventer des issues possibles pour une société qui va dans le mur. Mur de l'indifférence générale, de l'individualisme, du profit financier comme seul but de la négation de l'humain. La lumière vient de l'Orient, mais à quelle heure va-t-on se mettre au travail en France? Quelques rayons sourdes, je les entends, dans le brouillard opaque de notre vie politicienne. Allons, est-ce que nous reprendrons la Bastille? Est-ce que nous reprendrons la parole? Est-ce que nous reprendrons en main l'avenir du plus grand nombre? Je sais qu'ensemble nous le pouvons. Et j'ai voulu vous rajouter le manifeste des gens ordinaires, c'est le manifeste des Los Indignados de la Puerta del Sol. Ils viennent de quitter la place, mais ils restent très actifs. Voilà. Nous sommes des gens ordinaires. Nous sommes comme vous. Des gens qui se lèvent chaque matin pour étudier, travailler ou trouver un emploi. Des gens qui ont une famille et des amis. Des gens qui travaillent dur pour procurer un avenir meilleur à ceux qui les entourent. Certains parmi nous se considèrent progressistes, d'autres conservateurs. Certains parmi nous sont croyants, d'autres non. Certains parmi nous ont des idéologies bien définies, d'autres sont apolitiques. Mais nous sommes tous inquiets et en colère au sujet du paysage politique, économique et social que nous voyons autour de nous. Corruption parmi les politiciens, les hommes d'affaires et les banquiers qui nous laissent sans recours et sans voix. Cette situation est devenue la norme, une souffrance quotidienne sans espoir. Mais si nous assemblons nos forces, nous pouvons la changer. Il est temps de changer les choses, temps de construire ensemble une meilleure société. C'est pourquoi nous affirmons fortement que les priorités de toute société avancée doivent être le progrès, la solidarité, la liberté de la culture, la durabilité et le développement, le bien-être et le bonheur des peuples. Voici des vérités inaliénables auxquelles nous devrions nous attacher dans notre société. Le droit au logement, au travail, à la culture, à la santé, à l'éducation, à la participation à la vie politique, à la liberté du développement personnel, les droits des consommateurs pour une vie heureuse et en bonne santé. L'état actuel de notre gouvernement et de notre système économique ne se soucie pas de ces droits et de beaucoup de façons s'oppose au progrès humain. La démocratie appartient au peuple. Démos en grec veut dire peuple, kratos, la force. Cela signifie que le gouvernement est composé par chacun de nous. Toutefois, en Espagne, la majorité de la classe politique ne nous écoute même pas. Les politiciens devraient porter notre voix aux institutions, permettre la participation des citoyens à la politique par des canaux directs qui apportent les plus grands bénéfices à l'ensemble de la société et non pas s'enrichir et prospérer à nos dépens, à l'écoute exclusive de la dictature des principales puissances économiques, ni les maintenir au pouvoir dans un bipartisme conduit par les acronymes inamovibles PP et PSOE, Parti Populaire et Parti Socialiste, en Espagne. L'appétit de puissance et d'accumulation de quelques-uns crée les inégalités, les tensions et les injustices, lesquelles conduisent à la violence que nous rejetons. Le modèle économique antinaturel et obsolète pousse la machine sociale dans une spirale de croissance qui la consume elle-même, enrichit quelques-uns et plonge les autres dans la pauvreté, jusqu'à l'effondrement. L'intention et l'objet du système actuel est l'accumulation d'argent, sans égard pour l'efficacité ni le bien-être de la société. Gaspillage des ressources, destruction de la planète, création de chômage et de consommateurs malheureux. Les citoyens sont les rouages d'une machine conçue pour enrichir une minorité qui ne tient pas compte de nos besoins. Nous sommes anonymes. Mais sans nous, rien de cela n'existerait. Parce que nous sommes les moteurs du monde. Si en tant que société, nous apprenons à ne pas confier notre avenir à une économie abstraite, qui ne restitue jamais les bénéfices à la majorité, alors nous pouvons mettre fin aux mauvais traitements dont nous souffrons tous. Il faut une révolution éthique. Au lieu de placer l'argent au-dessus des êtres humains, nous le remettrons à notre service. Nous sommes des gens, pas des produits. Je ne suis pas le produit de ce que j'achète, pourquoi je l'achète et à qui je l'achète. Pour tout ce qui précède, je suis indigné. Je pense que je peux le changer. Je pense que je peux aider. Je sais qu'ensemble nous pouvons. Je pense que je peux aider. Je sais qu'ensemble nous pouvons. C'était le manifeste des gens ordinaires de la Puerta del Sol. Je pense qu'on pourrait dire la même chose en France. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
En espérant que cette émission ait attiré votre attention, voire même vous ait éclairé sur certains sujets fondamentaux, nous vous souhaitons d'excellentes vacances, pour ceux qui en prennent. Et pour tous ceux qui seront dans la même situation que l'équipe d'urgence, c'est-à-dire toujours sur le pont, bon courage en tout cas à vous tous. Et nous vous donnons rendez-vous à la rentrée.